France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
C'est le premier lundi du mois et comme à notre habitude, on plonge dans ce que l'actualité scientifique a de plus effervescent. Qu'est-ce qui fait la une en ce mois de mars ? Au menu, comment sortir du brouillard cérébral ? Outre la ménopause et certains cancers, cet état nébuleux touche un grand nombre de pathologies. On tentera d'y voir plus clair. Puis, nous avons peut-être mis la main sur une galaxie sombre, composée à plus de 99% de matière noire. Ensuite, on a mis la patte sur la plus ancienne trace de canidés domestiques, une empreinte vieille de 14 400 ans. Et enfin, les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais à la fin du XXe siècle, le bug de l'an 2000 avait fait trembler la planète. Moins médiatique, plus complexe, le bug de l'an 2038, lui, fait déjà frissonner les informaticiens. Tour de l'actu scientifique au clair de la une. Et bonjour Mathilde Fontaise.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du mensuel Epsilon, notre magazine partenaire. Sébastien Boller, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Pedro Lima, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique indépendant et auteur. Et nous sommes en ligne également avec Pierre Henriquet, alias Astropierre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médiateur scientifique indépendant et passionné d'espace. Un grand merci à vous quatre d'être là avec nous en direct dans nos studios à France Culture. Et puis également, merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast depuis l'appli Radio France ou sur franceculture.fr. Et puis, merci également à ceux qui nous rejoignent sur notre plateforme, sur notre compte, sur Blue Sky, sur notre compte @CQFD. Pour vous, tous les jours, on poste des petits bonus, des liens, des sources. N'hésitez pas à nous y retrouver. On commence avec notre premier sujet du jour et le dossier de la revue Cerveau et Psycho. Au départ, quand on a commencé à parler de brouillard mental, c'était initialement pour décrire les troubles cognitifs liés au traitement anticancéreux.
Cela vous est déjà arrivé d'aller dans votre cuisine et de ne plus savoir ce que vous êtes venu chercher ? D'avoir des difficultés à vous concentrer ou à retenir des informations très récentes ? Vous voyez ce genre de brouillard mental ? C'est exactement ce que vivent au quotidien de nombreuses personnes ayant suivi un traitement contre le cancer. Et ça, on en parle encore très peu.
Pendant longtemps, on a cru que ces plaintes-là pouvaient être assimilées à de la déprime ou de la dépression. Parce que c'est vraiment assez similaire. Tout est fatigant. Même si on arrive à faire les choses, ça nous demande beaucoup plus d'énergie. Certaines études le montrent, hein, même quelque chose de simple comme 2 plus 2, où on va répondre 4, ça va nous demander beaucoup plus d'énergie qu'une personne qui n'a pas eu de cancer. Et maintenant, on sait, avec des études scientifiques validées, notamment des études avec des IRM fonctionnelles, que oui, il existe effectivement des impacts sur le cerveau.
Ces symptômes, ils peuvent être dus aux différents traitements oncologiques, à un état d'anxiété ou au cancer lui-même. Des patients tentent de les faire diminuer en participant à des ateliers cognitifs, par exemple ceux de l'association bordelaise Oncogite, et ça marche.
On va faire des petits exercices qui ont l'air de rien, spécifiquement pensés pour faire travailler telle ou telle ou telle fonction cognitive. Les gens repartent avec... un peu comme si elles avaient repris les rênes de leur cerveau, en fait.
Voilà un extrait d'un reportage de France 3 en 2025. Sébastien Boller, finalement, ce phénomène est beaucoup plus fréquent que ce qu'on l'entendait dans cette archive.
Oui, c'est ça, c'est la découverte qui nous a frappé à la rédaction, parce qu'effectivement, on avait retracé l'historique de ce concept de chemo brain, le cerveau sous chimio, qui décrit cet état d'esprit cotonneux où on n'arrive plus à maintenir le fil de ses pensées, à suivre une conversation entre amis, où on ne sait plus ce qu'on est venu faire là. Et c'est effectivement au départ une conséquence souvent soit de la maladie, le cancer, soit des traitements qui allaient avec. Et puis en fouillant un peu, on s'est rendu compte que le syndrome, en fait, la liste de symptômes, perte de concentration, fatigue, esprit cotonneux, se retrouvait dans d'autres pathologies, notamment les maladies auto-immunes, les situations de surmenage, certaines allergies, des traumatismes crâniens, des intolérances alimentaires, ça commençait à faire beaucoup. Et en faisant la bibliographie internationale et en allant discuter avec des personnes qui travaillent sur le sujet, les chercheurs comme Pierre-Marie Liédo, qui est signateur d'un article dans le dossier qui travaille à l'Institut Pasteur sur ces questions-là, il s'est avéré qu'on estime en fait la prévalence à quasiment 25% de la population, c'est-à-dire
énorme, voilà, 25%.
Probablement, il y a 10 millions de personnes en France qui ont fait l'expérience un jour d'un brouillard mental, d'un brouillard cérébral, d'un brouillard cognitif. C'est un syndrome, c'est-à-dire que c'est au carrefour de plusieurs pathologies, hein, je viens de les citer. Par exemple, dans le cas de la chimiothérapie et du cancer, c'est 50% des personnes qui font état d'un brouillard cérébral. La fibromyalgie, vous savez, cette maladie inflammatoire, on a des douleurs inexplicables, notamment au niveau du cou, ça monte à 83% hein, selon les méta-analyses sur le sujet. 65% des traumatisés crâniens ont un brouillard cérébral. Donc, ça agrège, en fait, une multitude de pathologies qui se traduisent par ce syndrome. Et ça donne des plaintes, parfois, qui sont très, très troublantes. Nous, on a interrogé une personne qui disait, une jeune mère de famille, allait au supermarché, elle voulait acheter un cadenas. Et elle savait plus comment l'expliquer, elle trouvait plus le mot. Donc, elle allait vers un vendeur, elle essayait de lui expliquer. Impossible. Et plus elle se concentrait, plus elle était perdue, littéralement, dans un brouillard cognitif. Elle finit par le dessiner. Et puis, elle s'est dit, mais je deviens, j'ai une démence, une sorte de dégénérescence neuronale, une sorte d'Alzheimer précoce. Quelques jours après, elle oublie de serrer son frein à main dans sa voiture, la voiture part en marche arrière, elle dit, c'est pas possible. Là, il y a quelque chose, elle va consulter. Pas du tout, c'est pas Alzheimer. D'ailleurs, il y a une différence entre le brouillard cérébral et les maladies neurodégénératives, puisque le brouillard cérébral, a priori, n'est pas irréversible. Et la maladie d'Alzheimer, elle va altérer beaucoup ce qu'on appelle la mémoire épisodique, c'est-à-dire les souvenirs précis d'événements qui se sont passés au cours de la vie d'une personne, ce que ne fait pas le brouillard cérébral. Donc ce sont deux choses distinctes, et on pourra peut-être parler des mécanismes qui les distinguent également.
Évidemment. Là, ce que vous décrivez, en effet, ce trouble durable qui peut donc handicaper au quotidien, ça donne l'impression à certains patients, en effet, de perdre la tête. Alors comment, justement, on différencie le brouillard cognitif d'une démence ?
Alors, ce qui semble vraiment au cœur du brouillard cérébral, c'est d'une part un fait très important, et c'est à rapprocher du reportage qu'on vient d'entendre, c'est que c'est pas du tout une sorte de soit d'état dépressif ou de personnes qui ont pas envie de se bouger. Souvent l'entourage des patients leur dit bah allez arrête, tu nous embêtes, secoue-toi un petit peu. Et ça c'est toujours très culpabilisant et ça ne fait qu'augmenter la détresse des patients. Et c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui qu'on commence à rassembler les éléments de preuve scientifique qui montrent que le cerveau est altéré dans son fonctionnement et sa structure. C'est pas juste une espèce de fatigue passagère, il y a des changements. Et les changements, on peut les regrouper en gros derrière le terme de neuroinflammation. Le neuroinflammation, c'est une inflammation qui touche le cerveau. L'inflammation, bah, on sait ce que c'est, on se coupe, on se brûle, la peau réagit, ça devient rouge, ça devient extrêmement sensible, ça fait très mal dès qu'on touche. C'est lié à des molécules qu'on appelle les molécules inflammatoires, notamment les cytokines, qui sont une réponse du système immunitaire pour lutter contre une éventuelle agression ou une infection. Et donc c'est a priori une réaction salutaire de l'organisme, sauf que quand ça dure et que ça s'emballe, ça peut créer des problèmes, et notamment quand ça touche le cerveau. Et ce qu'on voit, c'est aussi bien dans les maladies auto-immunes que dans les stress chroniques, que dans les cancers, que dans les allergiques, tout ce que je viens de citer, il y a souvent, presque toujours, la ménopause c'est un cas un petit peu à part, on pourra en reparler, la présence de ces molécules inflammatoires qui vont avoir des effets sur le cerveau, notamment en activant une classe de cellules cérébrales qu'on appelle les microglies. Vous savez, dans le cerveau, on a 100 milliards de neurones, on a deux fois plus de cellules gliales qui ont un rôle multiple, nourricier, immunitaire. Et les microglies, une fois qu'elles sont sous l'influence des molécules inflammatoires, vont commencer à digérer une autre classe de molécules qui s'appelle les oligodendrocytes et dont le travail est d'enrober en fait les gaines des neurones d'une gaine isolante qui accélère la propagation de l'information. C'est très important d'avoir ces oligodendrocytes qui forment de la myéline, ça accélère l'information, ça fait qu'elle passe d'une vitesse de quelqu'un qui marche à la vitesse d'un TGV. Cette myéline, elle est essentielle et c'est elle qui fait qu'on réfléchit rapidement, qu'on a les idées claires. Donc cette myéline, elle commence à être rongée. Et à la fin, ben, l'influx ralentit, il y a des télescopages de trains d'ondes dans les neurones et ça donne ce sentiment de confusion totale.
Voilà, cette myéline, sans elle, la vitesse de traitement de l'info diminue, la pensée ralentit. Là, vous venez de décrire en effet comme la neuro-inflammation qu'on est en train de décrire dans les cas de brouillard mental comme le Covid long. Il y a en effet un autre mécanisme physiologique. Il y a ce qu'on appelle la fragilisation de la barrière hémato-encéphalique. Sébastien Bollard.
Oui. Alors, c'est encore une des conséquences des actions des molécules inflammatoires, des fameuses cytokines. La barrière hémato-encéphalique, faut préciser ce que c'est. C'est une membrane filtrante qui sépare le cerveau du reste de l'organisme. En fait, elle est constituée par un fin réseau de capillaires sanguins dont les cellules sont tellement rapprochées qu'en fait, elles laissent passer que des toutes petites molécules du flux sanguin vers le cerveau. Donc ça évite que le cerveau soit contaminé par des agents pathogènes, par des molécules étrangères. C'est d'ailleurs un problème parfois pour faire pénétrer des médicaments dans le cerveau. Cette barrière, elle est très très filtrante. Simplement, quand elle est exposée à des molécules inflammatoires de façon chronique, elle finit par être de plus en plus poreuse. Elle commence à laisser passer des corps étrangers. Donc le cerveau est pris d'assaut par plein de choses qui ne devraient jamais y pénétrer. Et ce qui augmente encore l'inflammation, on s'aperçoit que ça se traduit par des troubles de la mémoire, une perte de neuroplasticité, une diminution de la neurogenèse. C'est-à-dire que le cerveau, normalement, produit quand même en continu des nouveaux neurones pour pallier là où il y a des besoins. Mais non, là, la neurogenèse commence à baisser, notamment dans l'hippocampe qui est crucial pour la mémoire. Donc on commence à perdre un petit peu la mémoire, à plus savoir s'orienter. Et puis dans les zones frontales qui sont essentielles pour l'attention soutenue, par exemple, suivre une conversation, maintenir une information en tête, par exemple pour un calcul mental, faire une dictée, écrire, rédiger un mail, tout ça, ça devient de plus en plus difficile. Donc la barrière hémato-encéphalique, il faut la protéger. Donc de là vont découler des recherches pour neutraliser notamment le rôle excessif et délétère de ces cytokines.
Alors, on a ces circonstances inflammatoires et puis on a aussi tous ces autres mécanismes hormonaux, métaboliques. Et là, ça concerne plus spécifiquement la ménopause.
Alors la ménopause, là, c'est vraiment lié au changement de climat hormonal. C'est-à-dire qu'il se produit à la ménopause une baisse d'hormones sexuelles, notamment des œstrogènes. Les œstrogènes ont un rôle très important en fait, dans la régulation de l'activité cérébrale. Elles se fixent sur des récepteurs des œstrogènes et vont réguler l'activité notamment de l'hippocampe, de l'hypothalamus, qui est important notamment pour le sommeil, la régulation de l'appétit. On sait que ça dérègle aussi parfois l'appétit, le sommeil, enfin, ce qu'on appelle les bouffées de chaleur et tout ça. Donc ça, c'est lié en fait, à une baisse des œstrogènes. Et le problème est que cette baisse des œstrogènes, quand elle se combine à une inflammation, ça va donner une vraie bombe à retardement. Et là, on peut se retrouver avec des brouillards mentaux assez lourds à prendre en charge.
Bah là, on comprend bien qu'il n'y a pas un, mais des brouillards mentaux. Comment on diagnostique? Comment on prend en charge, justement, avec un tel nombre de mécanismes différents, un tel nombre de pathologies différentes, ouais, elles aussi?
Actuellement, il y a un travail de recherche fondamentale pour essayer de créer une vraie typologie diagnostique du brouillard mental, parce que c'est vrai qu'il y a des brouillards mentaux. Les patients qui sont atteints d'un brouillard de type cancer, qui rencontrent des personnes qui ont un brouillard de type lié à une maladie auto-immune, comme la sclérose en plaques, par exemple, se rendent compte qu'ils n'ont pas les mêmes plaintes. Il y en a, c'est plus la mémoire, d'autres, c'est plus la concentration. Donc, on se rend compte qu'on regroupe sous le terme de brouillard quelque chose d'un petit peu nébuleux. Donc, il va y avoir une recherche pour bien serrer les choses. Et puis ensuite, il y a la prise en charge. Et la prise en charge sur ce plan-là, c'est intéressant parce que il y a des consultations, et notamment justement dans l'association Oncogite, nous on a interrogé Véronique Girard-Muller, je pensais qu'il s'exprimait tout à l'heure, faudrait vérifier, mais qui explique que souvent les personnes qui sont en situation de brouillard mental, on leur dit de se concentrer, de faire un effort. Mais surtout pas. En fait, c'est comme demander à quelqu'un qui s'est cassé une jambe d'aller faire un footing, de se bouger. Non, la première chose à faire, c'est le repos. Donc il faut vraiment se mettre au repos cérébral.
Arrêter de faire des efforts.
Ouais. Pas chercher à compenser, se dire j'arrête de réfléchir, j'arrête de mémoriser des choses, je me mets des post-it, je demande à quelqu'un de m'aider, le sang que l'os se ressoude pour la jambe cassée, c'est pareil pour le cerveau, il doit un petit peu se restaurer. Et ensuite, une fois que cette période de repos, qui peut prendre plusieurs semaines, est bien respectée, on aborde la rééducation, hein, comme dans le cas d'une fracture osseuse, mais là c'est de la remédiation cognitive. La remédiation cognitive, c'est de la rééducation cognitive où on va faire des exercices de concentration, repérer un symbole visuel précis au milieu d'un fouillis, par exemple dans le jeu Trouver Charlie, des choses comme ça, vous voyez, ou faire des exercices de mémoire de travail, où il faut mémoriser des listes de noms de plus en plus longs. Et c'est très fatigant, mais là c'est comme quelqu'un est en rééducation, ça fait mal, ça demande beaucoup d'efforts, mais on est dans une phase où le cerveau est prêt à de nouveau se raffermir grâce à ces exercices. Et ce que nous indique Véronique Girard-Muller, c'est que bah là, les gens le disent, je récupère, je suis en train de réapprendre à me concentrer. Et donc, c'est une voie d'espoir, mais qui dépend vraiment des tableaux cliniques. Donc là, il faut beaucoup de finesse diagnostique quand même. Et on manque encore des outils standardisés, donc il faut des gens qui s'y connaissent. Et le premier conseil qu'on donne à une personne, c'est de parler à son médecin généraliste et de voir s'il connaît un neuropsychologue qui connaît le brouillard mental.
Et bien en tout cas, voilà, j'invite tous nos auditeurs et tous nos auditrices à se tourner vers le dernier numéro de Cerveau et Psycho, où il est également question des cas de Covid long qui sont particulièrement extrêmement invalidants et incompris, tant par le corps médical que par le corps social, on peut dire. Tout de suite, on continue d'éclaircir l'actualité scientifique et on change de média. On clique sur astropire.com.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, c'est notre lundi Club Actu, notre revue de presse scientifique mensuelle. Deuxième sujet du jour, les résultats du télescope spatio Hubble Euclide ainsi que du télescope terrestre Subaru auraient identifié une galaxie qui semble être composée à 99,99% de matière noire. Ce serait ce qu'on appelle une galaxie sombre. Alors Pierre Henriquet, Astropierre, qu'appelle-t-on galaxie sombre ?
Eh bien, une galaxie sombre, c'est en fait une galaxie qui, par rapport aux galaxies classiques, possède plus de matière noire et moins de matière classique, atomique, réelle, celle que l'on connaît, celle dont notre corps est fait. On le sait maintenant depuis très longtemps, depuis facilement un demi-siècle, les galaxies donc sont des objets, des assemblements de centaines de milliards d'étoiles avec leur cortège de planètes, plus un peu de gaz, plus un peu de poussière. Et si vous sommez la masse de toute cette matière, eh bien vous n'obtenez que, en général, à peu près 10% de la masse totale de la galaxie. Les galaxies sont plus lourdes, considérablement plus lourdes, que leur contenu en matière. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce supplément ? Eh ben, on ne sait pas, mais on sait que ça existe parce qu'on arrive à peser ces galaxies, donc on sait qu'il y a quelque chose qui pèse, qui n'est pas de la matière classique, fait avec des atomes, et en attendant de savoir ce que c'est, eh ben, on appelle ça de la matière noire. Et donc, dans une galaxie comme la nôtre, la Voie lactée, le pourcentage de matière noire est d'à peu près 90% de matière noire et 10% de matière classique. Eh bien, dans ces galaxies sombres, on pourrait arriver à plus de 99,9% de matière noire. Donc, ce sont des endroits de l'univers très, très intéressant à étudier, mais comme il n'y a quasiment plus d'étoiles, ben ça brille pas, c'est très sombre, et donc c'est très très difficile à détecter et à observer.
Alors justement, cette galaxie, cette candidate galaxie sombre, elle s'appelle CDG2 pour Candidate Dark Galaxy 2. Elle est située dans l'amas de Persée, un groupe de milliers de galaxies. Elle est située à environ 240 millions d'années-lumière de la Terre. Alors qu'est-ce qui la distingue justement de notre Voie lactée à nous, Pierre Henriquet ?
Ben justement, cette galaxie, elle est très faible. En fait, elle est tellement faible qu'on ne la voit même plus briller. Comme je vous disais, une galaxie normale, il y a des centaines de milliards d'étoiles. Donc une galaxie, ça se détecte jusqu'à des milliards d'années-lumière parce que ça brille très fort, c'est plein d'étoiles. Ben une galaxie où il y a quasiment plus d'étoiles, eh ben ça brille pas. Et donc si ça brille pas, eh ben c'est très très dur à observer. Et celle-ci, eh ben c'est la première galaxie qui n'a pas été détecté en observant ces étoiles, parce qu'il n'y en a pas assez. Et donc, ça a été détecté grâce à un autre phénomène, des petites boules d'étoiles qui sont en général satellites des galaxies, qu'on appelle les amas globulaires.
Et voilà, cette galaxie ne semble en effet ne contenir qu'une poignée d'étoiles, et elle ne semble en effet abriter que quatre amas globulaires. Alors, qu'est-ce qu'un amas globulaire et pourquoi globulaire au juste ? Deuxième archive.
Alors l'autre catégorie, c'est celle des amas globulaires, qui sont beaucoup moins nombreux, il n'y en a qu'une centaine à peu près en tout dans notre galaxie, et eux sont au contraire, en majorité, en dehors du plan de la galaxie. Et ils sont beaucoup plus éloignés de nous, à plusieurs milliers d'années-lumière, de sorte qu'il est beaucoup plus difficile de les observer. Les étoiles sont très faibles, et aucun d'eux, en fait, n'est visible à l'œil nu. Mais avec un instrument, et en faisant des pauses de durée suffisamment grandes, on peut obtenir de magnifiques photos de ces amas, et ce sont ces amas globulaires qui ont quelquefois jusqu'à 1 million d'étoiles. Ils sont beaucoup plus riches que les amas ouverts.
On les appelle globulaires parce qu'ils sont en gros sphériques comme forme, à peu près.
La plupart d'entre eux sont presque parfaitement sphériques. Oui. Quelques-uns sont un peu aplatis.
Et ils ne sont pas diffus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étoiles très éloignées qui en font partie. Ils sont quand même assez limités.
Ils sont limités en rayon, mais il est difficile de déterminer exactement leurs limites, parce que la densité d'étoiles varie considérablement du centre à l'extérieur. Au centre même de l'amas, les étoiles sont très rapprochées les unes des autres. Et au fur et à mesure que vous allez vers les régions extérieures de l'amas, la densité diminue très fortement, et cela se fond progressivement dans l'ensemble de la galaxie.
Voilà un extrait de l'émission Les grandes avenues de la science moderne sur France Culture en 1972. Pierre Henriquet, comment complétez selon vous ici cette définition qu'on vient d'entendre des amas globulaires ?
Alors, les amas globulaires, déjà, c'est quelque chose de très beau. Si vous avez un petit télescope chez vous, n'hésitez pas en été, fin printemps et puis tout l'été à regarder dans la constellation d'Hercule. Il y a un magnifique amas globulaire qui s'appelle M13 dans la constellation d'Hercule. En fait, c'est vraiment des grosses boules d'étoiles. Hein. C'est magnifique, on peut l'observer au télescope. Ça ressemble à une pelote d'épingle. C'est superbe. Et ce sont des agglomérations sphériques de quelques dizaines de milliers d'étoiles, et ces petites boules d'étoiles, petites pour un astronome, elles orbitent autour des galaxies, un peu comme un essaim d'abeilles autour d'une ruche. Une autre galaxie, par exemple la Voie lactée, elle possède plus de 150 amas globulaires comme ça, qui se déplacent autour d'elle. Et justement, si on parle de CDG2, ça c'est l'origine de cette découverte, c'est que cette galaxie est tellement faible, elle brille tellement peu, elle possède tellement peu d'étoiles, qu'en fait elle a été détectée uniquement parce qu'on a trouvé au départ 4 amas globulaires qui tournent autour de rien. Mais alors, en cherchant bien, le télescope spatial européen Euclide et le télescope terrestre Subaru, japonais, ils sont arrivés, en regardant bien ces 4 amas globulaires, à détecter une très faible lueur autour de ces amas globulaires, qui correspond en fait à cette fameuse galaxie sous-jacente qui est très très pauvre en étoiles. Et en fait, c'est la première fois qu'une galaxie est tellement faible qu'elle a été détectée uniquement grâce à ces amas globulaires, ce qui normalement n'arrive jamais.
Mais alors pourquoi justement ces amas globulaires sont-ils des traceurs fiables de ces galaxies fantomatiques ?
Ah, ça c'est la partie qui est passionnante, évidemment. On a pu estimer la proportion de matière noire contenue dans cette galaxie. Pourquoi ? Parce qu'il existe dans l'univers une relation mathématique empirique qu'on observe quasiment pour toutes les galaxies de l'univers et qui relie la quantité d'amas globulaires qui tournent autour d'une galaxie à la quantité de matière noire que cette galaxie contient. Et cette relation mathématique, on ne sait pas trop pourquoi, elle est valable pour quasiment toutes les galaxies de l'univers. Donc si c'est valable pour toutes les galaxies, on l'a appliqué sur cette galaxie en particulier. Et donc pour cette galaxie, grâce à cette relation, on estime que plus de 99% de la masse de la galaxie est faite de matière noire. Plus précisément, l'article qui est sorti donc récemment sur ce sujet estime la proportion de matière noire dans cette petite galaxie CDG2 entre 99,94% et 99,98% de sa masse totale. Donc si ces résultats sont confirmés par d'autres mesures, par d'autres observations, il s'agit de la galaxie la plus riche en matière noire qui ait jamais été observée.
Alors, plus de 99% de sa masse, ce qui semble être de la matière noire, mais où est donc passée sa grande partie de sa matière ordinaire, sa matière baryonique, Pierre-Henriquet ?
Alors, évidemment, on se pose des questions, et quand on n'a pas toutes les réponses, on émet des hypothèses. Alors, outre le fait que chercher les plus importantes concentrations de matière noire dans l'univers, ça permettra peut-être un jour enfin de savoir de quoi elle est faite, si jamais elle est faite de quelque chose, ce qui est aussi un autre sujet de discorde dans la communauté scientifique. Mais ces travaux, ils nous donnent donc plus d'informations sur la naissance et l'évolution des galaxies. En gros, il y a deux hypothèses qui permettent d'aboutir à des galaxies avec aussi peu de matière et autant de matière noire. La première hypothèse, elle envisage le fait que, dès le début de l'univers, des poches de matière noire ont commencé très vite à attirer gravitationnellement le gaz en des masses de plus en plus denses pour petit à petit y déclencher la formation d'étoiles dans ce qui deviendra plus tard des galaxies. Ces poches de matière noire qui ont commencé à créer des grumeaux très tôt dans l'univers, ça c'est pas juste une hypothèse comme ça au hasard, on en a des preuves observationnelles quand on regarde le fameux fond diffus cosmologique, la première image de la soupe primitive qui est apparue peu de temps après l'univers, on voit ces grumeaux, donc on sait que la matière noire, elle a commencé très tôt à agglomérer de la matière. Et dans certains modèles, eh ben justement, on peut envisager que ce processus de création rapide et de formation d'étoiles dans les premières galaxies, ben ce processus, il peut parfois s'interrompre prématurément, ce qui donne naissance à de grandes galaxies très massives, mais avec très peu d'étoiles, et donc proportionnellement beaucoup de matière noire. Ça, c'est la première hypothèse, c'est-à-dire des galaxies qui naissent et qui s'arrêtent de former des étoiles très vite. L'autre hypothèse, c'est plutôt une hypothèse contemporaine, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette galaxie, elle fait partie d'un amas de galaxies. Cet amas, c'est des milliers de galaxies qui s'attirent les unes les autres. Et donc, les amas de galaxies, eh ben, ce sont des milieux qui sont très turbulents, où les galaxies se croisent, s'entrechoquent, se pénètrent, se volent de la matière les unes aux autres, en brassant et en chauffant le gaz qui est présent entre les galaxies. Et donc, dans ce genre de milieu, une galaxie pauvre en étoiles, et donc riche en matière noire, peut aussi se former si justement les autres galaxies de l'amas la privent, la phagocytent et la privent de son hydrogène qui est essentiel à la formation des étoiles. Donc plusieurs scénarios aboutissent comme ça à l'existence de galaxies très pauvres en matière et donc très riches en matière noire. Quel scénario est le bon ? La réponse sera probablement un mix des deux, mais dans quelle proportion ? Et bien justement, cette étude va contribuer probablement à le savoir.
Alors cette étude, en effet, elle est parue en juin 2025 dans The Astrophysical Journal Letters. Mais alors, Pierre-Henriquet, on aimerait bien découvrir des galaxies complètement obscures, mais celle-ci ne l'est pas, tout de même.
Alors, celle-ci, il reste quelques étoiles. Alors là encore, hein, quand un astronome dit petit, grand, gros, etc., c'est des termes qui sont un peu différents par rapport à ceux qu'on utilise dans le langage courant. Mais effectivement, on a encore aujourd'hui cette galaxie, elle fait environ 1 million de fois la luminosité du Soleil. Vous allez me dire, 1 million de soleils, ça brille ? Ben non, pas beaucoup, parce que dans une galaxie, hein, typiquement, notre Voie lactée, c'est 100 milliards de fois la luminosité du Soleil. Donc cette petite galaxie CDG2, elle brille 100 000 fois moins qu'une galaxie classique. C'est un peu comme si on essaye de détecter la luminosité d'une luciole comparée à celle d'un phare maritime. C'est minuscule, mais ça n'est pas encore totalement zéro. Effectivement, dans l'absolu, nous, ce qu'on aimerait, c'est trouver des amas de matière noire pure qui soient complètement dénués de matière classique. Le problème, évidemment, ça va être de le détecter, puisque la matière noire, contrairement à ce que son nom l'indique, elle n'est pas noire, elle est transparente, on ne la voit pas, et c'est bien pour ça qu'il est aussi difficile à détecter. Donc, une grosse galaxie faite uniquement de matière noire, ce sera juste aussi transparent que le vide, et du coup, ça va être compliqué à détecter.
Sébastien Boller, vous souhaitiez réagir?
Oui, c'est passionnant. Le terme de galaxie sombre laisse imaginer que ces galaxies seraient aussi composées de, non pas d'étoiles, mais de corps, d'une collection de corps célestes invisibles. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est une matière noire homogène, totalement une sorte de soupe indifférenciée?
Alors, quand on a su que les galaxies étaient beaucoup plus lourdes que leur contenu matériel, la première hypothèse qu'on a posée, c'est justement peut-être que ce qui rajoute de la masse dans ces galaxies, ce sont des trucs qui n'émettent pas de lumière. Donc, ça peut être du gaz, ça peut être des planètes, ça peut être des trous noirs, ça peut être, etc. Donc, on a très vite commencé à supposer que de la matière réellement noire, non lumineuse, pouvait participer à cette masse-là. Et puis, avec le temps, avec les mesures, avec les analyses, avec les observations, on s'est aperçu que dans une galaxie, il y a l'essentiel de la matière qui est dedans, c'est surtout des étoiles, et ça brille. Et donc, tout ce qui est sombre, c'est encore une portion inférieure à la matière lumineuse visible. Donc, on ne peut pas expliquer la présence de cette matière noire par justement des objets qui sont sombres, d'autant plus que si la matière noire était essentiellement noire, et ben justement on la verrait. On la verrait parce qu'en passant devant les autres étoiles, et ben elles occulteraient les galaxies lointaines et donc on pourrait la voir. Oui. Or, malheureusement, cette matière noire, elle est invisible. C'est bien le problème. Donc, c'est pas des objets sombres.
C'est bien le problème. Et d'ailleurs, pour tout comprendre sur l'actualité de la recherche sur ce sujet, je vous recommande notre épisode animé par Antoine Beauchamp pour ces QFD galaxies noires, les voir pour les croire. On poursuit. Comment les loups ont-ils évolué pour devenir des chiens ? On répond à cette question dans quelques instants.
chez un loup qui jadis était très méchant, mais qui par malheur un jour s'est cassé les dents. Sur une grand-mère solide comme un roc, tout est à l'envers, c'est une triste époque. J'étais loup méchant, je suis maintenant gentil chien. Elle me promène et je lui mange dans la main. Si je ne file pas droit ou bien si j'ai tort, tout est à l'envers, c'est elle qui me mord.
Pauvre loup, pauvre loup,
pauvre loup,
pauvre loup,
pauvre loup,
pauvre loup, pauvre loup.
J'ai jamais vraiment mangé le chaperon rouge. Ça c'est des histoires qu'on raconte au fond des bouches. Ce petit enfant blond était loin d'être bête.
À la Bafoung, chanson du loup en direct sur France Culture, car nous faisons le tour de l'actualité des sciences en compagnie de Mathilde Fontaise, rédactrice en chef du mensuel Epsilon, Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, Pedro Lima, journaliste scientifique indépendant et auteur, et Pierre Henriquet, alias Astropierre, médiateur scientifique indépendant et passionné d'espace. Nous arrivons sur notre troisième sujet avec vous, Pedro Lima. Un sujet de canidés, de chiens, mais avant tout, qu'est-ce que l'on sait des origines de la domestication du loup?
Bah justement, c'est la question à 1000 euros, entre guillemets, à laquelle essaient de répondre plusieurs équipes internationales. Et pour ça, ils ont différentes voies de recherche pour trouver les réponses. En gros, on se demande où ça s'est passé, à partir de quand des humains ont commencé à établir des relations avec des loups tellement suivis qu'on est passé d'une sorte d'apprivoisement à une domestication pour aboutir aux 340 races, je vous le rappelle, de chiens domestiques actuels, selon la Fédération Cynologique Internationale. Il y a même une estimation du nombre de chiens actuels domestiques dans le monde, 700 millions, moi je pensais que c'était plus. Donc où est-ce que ça s'est passé, quand ça s'est passé, et puis qu'est-ce qui s'est passé? À ces trois questions, malheureusement, on n'a pas de réponse très précise et définitive, comme souvent en paléoanthropologie, parce qu'au plus on va remonter dans le temps, et ici en paléozoologie, évidemment, on a peu de traces, les fossiles sont rares, et donc les réponses aux questions ne sont pas évidentes. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette recherche, donc publiée au mois de janvier dernier dans la revue Quaternary Science Reviews d'une équipe italienne, c'est qu'elle ne s'est pas concentrée sur des fossiles de canidés, donc anciens, et qui essaie de montrer à quel moment on a un passage comme ça d'une anatomie de loup à une anatomie de chien. Elle ne s'est pas intéressée à l'ADN et à la paléogénomique, qui est la deuxième grande voie d'accès à la compréhension de ces phénomènes de domestication et de passage d'une espèce à l'autre, mais à l'ichnologie, c'est-à-dire la science des empreintes. En fait, donc c'est une recherche qui se déroule dans une grotte qui s'appelle la Grotta della Bassura, ça veut dire sorcière en italien, sur la côte Ligure, pas très loin de la ville de Savone. Alors c'est une grotte qui est connue depuis 1950, qui a livré des vestiges, par exemple des fossiles d'ours qui hibernaient à cet endroit. Alors il n'y a pas d'art pariétal, par exemple, comme dans d'autres très belles grottes paléolithiques. Par contre, il y a beaucoup d'empreintes sur les sols, des empreintes à la fois d'humains et des empreintes de canidés. Alors ça, on les avait déjà observées depuis longtemps. Et ce qu'a fait cette équipe italienne, et je trouve que c'est vraiment une très belle recherche, c'est d'identifier précisément qui était ce canidé qui a trotté dans cette grotte de la Bassura en compagnie d'êtres humains.
Eh bien justement, puisque ces empreintes, elles ont été soumises à une batterie d'analyses très sophistiquée, à quoi ressemblait ce toutou préhistorique? C'est un beau pépère, hein, quand même.
Est-ce qu'on peut dire un mot sur la façon dont ils l'ont montré, à quoi il ressemblait? Ça, je trouve que c'est vraiment beau. Il y a eu une expérimentation qui les a conduits, alors d'une part, à faire un relevé photogrammétrique extrêmement précis, inframillimétrique, de 25 empreintes de ce canidé dans cette grotte. Le canidé a accompagné des humains jusqu'au fond de la grotte à 900 mètres de profondeur. On le sait parce que les empreintes de canidés et d'humains se superposent par endroits. Parfois le canidé au-dessus des humains, parfois les humains au-dessus du canidé. Ce qui veut dire qu'il y avait une contemporanéité entre humains et canidés à l'intérieur. Et ils ont aussi fait, cette équipe italienne, une expérimentation avec 14 chiens domestiques actuels de races proches morphologiquement de Canis lupus, donc qui est l'ancêtre de tous les chiens actuels. Et ils les ont fait marcher sur des sortes de pistes sableuses pour obtenir des pistes d'empreintes de ces 14 chiens domestiques actuels. Ils ont passé les très nombreuses données donc photogrammétriques obtenues sur ces empreintes expérimentales et celles obtenues à l'intérieur de la cavité dans des logiciels bon extrêmement pointus. Je vous passe les détails sur la statistique et la photogrammétrie, mais bon, c'est extrêmement convaincant d'un point de vue statistique. Et ce qu'ils ont montré, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, comme vous le disiez, ils ont pu identifier, grâce à cette méthode, la morphologie de ce chien. Donc on était sur un canidé de 40 kilos à peu près, 70 centimètres au garrot et plus de 1 mètre de long. Donc quand même un beau bébé.
C'est une belle bête, oui.
Néanmoins, plus petit en taille qu'une moyenne de taille des loups gris, ancêtres des chiens domestiques actuels, qui peuvent peser jusqu'à 70 kilos et faire 90 centimètres au garrot. Ce qu'a montré aussi cette équipe, et ça c'est très important et intéressant, c'est que la variabilité des empreintes du chien, pardon, du canidé, on ne le savait pas encore, dans la grotte, s'inscrit dans la variabilité des empreintes des 14 chiens domestiques actuels qui ont été mesurés. Et donc il y a des courbes très parlantes qui montrent que les empreintes de Canis lupus, parce qu'il y a aussi des empreintes de loups actuels qui ont été étudiés, sortent de cette variabilité. Le canidé de cette grotte est dans la variabilité. Ce que ça veut dire pour les chercheurs, c'est qu'on est face à la première preuve de la présence conjointe d'humains et d'un chien domestique il y a 14 700 ans dans un site occupé par les humains.
En effet, sur la question de la domestication du loup, on continue d'avancer à pas de loup.
La présence d'empreintes dans les parties les plus profondes de la grotte, à plus de 500 mètres de l'entrée, soulève des questions.
S'ils vont dans ces milieux les plus profonds de la grotte, ils ne peuvent pas voir dans le noir absolu, quand bien même ce sont des animaux nyctalopes. Sans aucune source lumineuse, ils ne verront rien. S'ils sont en mesure d'aller dans les secteurs les plus profonds, d'une manière tout à fait, on va dire, volontaire, sans être en train de chercher leur chemin, c'est qu'il y a une source lumineuse. Pour l'époque qui nous concerne, la seule source lumineuse potentielle qu'on peut avoir dans ces secteurs les plus profonds, ça va être des feux. Ces feux, dans le milieu karstique, dans la grotte, ne peuvent être que d'origine humaine. Donc de fait, si on a ces traces de loup profondes qui attestent d'un cheminement intentionnel du loup vers les secteurs profonds, c'est qu'on a le feu humain qui y est associé, de manière à peu près certaine.
Dans la galerie des croisillons, Jean-Baptiste et Philippe ont découvert côte à côte des empreintes laissées par les hommes et des empreintes laissées par les loups. Comme si l'homme et le loup avaient suivi le même chemin.
Voilà le documentaire Arte, grotte de Chauvet dans les pas des artistes de la préhistoire, documentaire de 2026. Pedro Limal, on entendait voilà, des empreintes de loup côte à côte avec celles d'empreintes humaines. Mais retournons sur notre étude. Pourquoi emmener un canidé dans une grotte au palytique supérieur? On a montré que ces empreintes étaient en plus faites de façon conjointe. Pour quelle raison emmener ces gros pépères qu'on vient de décrire?
Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la grotte de la Bassoula, et c'est le cas aussi de la grotte Chauvet évoquée dans l'archive, dans le documentaire très intéressant donc sur cette cavité également, renferme des restes d'ours des cavernes qui hibernaient à cet endroit. Ça veut dire qu'on pouvait potentiellement se retrouver quand on allait en incursion à l'intérieur de la grotte Chauvet il y a 30 000 ans en Ardèche pour réaliser de l'art pariétal, ou dans cette grotte italienne où visiblement les gens ne sont allés que pour explorer le monde souterrain, on pouvait se retrouver nez à nez avec un ours des cavernes qui est là un très beau bébé. Enfin, c'est un animal très dangereux, bien sûr, un prédateur. Il y avait aussi des félins, donc premier intérêt tout simplement d'avoir domestiqué des loups suffisamment costauds et agressifs pour résister à ce type d'animaux. Ben, c'est une protection face à ce type d'animaux. Ce qu'on vient d'écouter, c'est très important et c'est très intéressant parce que tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure se déroule il y a environ 14 700 ans en Italie. La grotte Chauvet, c'est 30 000 ans. Et effectivement, dans une grotte que j'ai eu la possibilité, la chance de visiter deux fois, et effectivement, dans les parties reculées de cette grotte, il y a quelque chose qui rappelle ce qu'on a dans la grotte de la Bassoula en Italie, c'est-à-dire une double piste d'empreintes, mais sans superposition, cette fois, d'un canidé et d'un humain, potentiellement un adolescent ou une femme. Comme on l'a entendu, le loup n'a pas une très bonne vision nocturne, il en a un tout petit peu, et l'hypothèse, mais là c'est qu'une hypothèse, contrairement à ce qui s'est passé pour la grotte italienne, ça n'a pas encore été démontré de manière définitive, c'est qu'un humain et un loup, donc potentiellement déjà en cours de peut-être apprivoisement, voire domestication. Il y a deux fois plus longtemps que les 15-17 000 ans pour lesquels cette domestication est vraiment déjà attestée, aurait accompagné un humain. Donc, encore à confirmer, mais on est dans la grotte Chauvet, peut-être effectivement face à une des traces à nouveau ichnologiques, hein, liées à ces empreintes sur le sol les plus anciennes, de cette relation à bénéfice mutuel entre les humains et les loups qui a conduit à l'apparition des chiens, puis de tous nos braves toutous d'aujourd'hui.
Voilà, les preuves génétiques suggèrent que le processus de domestication aurait pu débuter il y a 40 000 ans, mais voici voilà ces empreintes de Bassoura qui représentent les plus anciennes traces physiques tangibles de cette amitié millénaire entre nos deux espèces. Écoutez, merci beaucoup Pedro Lima. On retrouve vos articles fin mai dans la revue L'Archéologie. Vous nous parlerez...
Archéologue,
et vous nous reparlerez encore de canidés. Et votre livre Paléokid est toujours disponible en librairie. Allez, on quitte la préhistoire pour se projeter dans un futur pas si lointain, le bug de l'an 2038.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Toujours en direct sur France Culture, on fait le tour de l'actualité scientifique. Et là, on se saisit du dernier numéro du magazine Epsilon. Beaucoup moins médiatique, probablement parce qu'il est plus complexe que celui du passage de millénaire. C'est pas l'an 2000, c'est le bug de l'an 2038. À la fin du XXe siècle, on redoutait ce passage au nouveau millénaire avec un changement de date illisible pour les logiciels.
Une certitude pour l'an 2000, c'est dans un peu plus de 19 mois, et l'addition va être salée. La raison, le fameux bug de l'an 2000. Autrement dit, les ordinateurs du monde entier bloqués au 1er janvier 00, car le changement de date est illisible pour les logiciels. Depuis les années 60, les informaticiens, pour économiser de la mémoire, n'ont enregistré dans les ordinateurs que les deux derniers numéros de l'année. Moralité, en l'an 2000, les ordinateurs risquent de reculer d'un siècle ou de se bloquer. Des banques aux transports, c'est toute la vie économique qui serait gravement perturbée. Et pour dégripper l'informatique, Michel Garibald, cela va coûter très cher.
La facture à payer pour les corrections indispensables qui permettront à l'an 2000 d'exister dans la mémoire des ordinateurs sera considérable. Car il faut revoir non seulement les programmes et les données, mais aussi les systèmes d'exploitation, les serveurs, les réseaux et les périphériques. Le travail d'inventaire est si vaste que l'on préfère donner des ordres de grandeur plutôt que des évaluations précises. L'addition globale pour le monde industrialisé pourrait atteindre 600 milliards de dollars, plus de 3600 milliards de francs. Pour chaque entreprise, on évalue à 2 francs au moins par ligne la note à payer. Or, pour une société moyenne, il y a plusieurs milliers de lignes à modifier. La RATP, par exemple, estime qu'il lui faudra consacrer entre 30 et 50 millions de francs, car tous les systèmes installés avant 1990 sont à revoir. Et certaines entreprises profiteront de cet aléa pour changer leur matériel au profit de systèmes plus modernes, ce qui alourdira encore l'addition.
Voilà un extrait du journal de France Inter en 1998. Alors Mathilde Fontaise, on a le souvenir, pour ceux qui s'en souviennent, que voilà, on en a fait tout un foin, le bug de l'an 2000, et puis que finalement, en fait, ça a été un peu un flop.
Oui,
ça,
jusqu'à se dire qu'on en a fait tout un foin et que c'était pas justifié. Alors qu'en fait, on en a fait tout un foin, il y a eu énormément de travail de fait, énormément d'argent dépensé. Donc moi j'ai le chiffre de 150 milliards rien que pour l'Europe, milliards d'euros rien que pour l'Europe dépensés pour passer le bug de l'an 2000. Donc il s'est véritablement passé quelque chose, seulement ça s'est bien passé. Ça a été préparé, il a fallu travailler pendant 10 ans pour réussir à franchir ce cap. Et donc je rappelle, hein, le bug de l'an 2000, c'était quoi ? C'était qu'on avait choisi de coder, enfin choisi de manière tout à fait logique, hein, pour gagner en mémoire, pour optimiser au maximum les ordinateurs. Les informaticiens avaient choisi de coder les dates avec deux chiffres, donc 99 et pas 1999. Sauf qu'au moment du passage de l'an 2000, ce qui allait se passer, c'est que ça allait refaire 00 et que ça allait revenir à 1900. Ce qui allait provoquer des problèmes logiques après dans les logiciels et ce qui allait provoquer des bugs. Donc c'est ça qu'on a réparé, en l'an 2000, mais il a quand même bien fallu le faire.
C'est ça qui a coûté donc très cher. Et donc, on entendait dans cet archive d'ailleurs une allusion à la RATP.
aujourd'hui, que la RATP soit de nouveau impliquée, puisqu'effectivement, ce qui nous a mis sur ce sujet-là à Epsilon, en décembre, c'est une affaire qui implique la RATP, encore une fois, qui est face à Alstom, un constructeur de trains, et qui s'est retourné vers Alstom il y a quelques années. Ça a été révélé en décembre par le média L'Informé. Au moment du verdict, le tribunal administratif a rendu son verdict et a condamné Alstom à corriger un bug, ce fameux bug de 2038 sur des rames de métro qui devaient être livrées à la RATP. Donc à ce moment-là, tout le verdict a été rendu public. Je précise que Alstom a fait appel. Et on a pu, tout le monde pouvait d'ailleurs le consulter. Donc nous, on l'a consulté aussi. Et effectivement, on s'est rendu compte de l'ampleur du bug, puisqu'il s'agit donc du RER A, de 8 lignes de métro, de 6 lignes de tram et de, en gros, 38 logiciels sur les 260 logiciels embarqués, il y en a 38 qui dysfonctionneront en 2038. Donc quand la RATP s'est rendue compte de ça, elle a demandé à Alstom de corriger. Là, Alstom va vraisemblablement être obligée par le verdict de corriger. Donc nous, on a regardé ce bug-là et on s'est demandé si finalement ça ne pouvait pas toucher d'autres équipements que simplement des trains, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, on a quelque part plongé dans un problème qui est totalement délirant.
Parce que là, on parle d'un bug du côté de la RATP qui risque en effet d'immobiliser un tiers du réseau parisien. C'est pas rien, mais en effet, quelle est l'ampleur justement du problème de ce bug? On rentrera ensuite dans le détail technique, mais en fait, l'ampleur, il est mondiale.
Mais l'ampleur, il est mondiale puisqu'il s'agit en fait du codage de l'heure dans les logiciels embarqués, dans les processeurs, dans tous les dispositifs électroniques. Et donc, ça peut concerner n'importe quel système qui va être un peu ancien et pas connecté à Internet. Donc, ça peut être des dispositifs médicaux, par exemple des échographes, des IRM, des stimulateurs cardiaques. Ça peut être des barrages, ça peut être des stations d'épuration, des pompes à essence. Ça peut être des trams, des trains, des voitures, on l'a dit, mais ça peut être aussi des interphones, des caméras, des compteurs électriques, des routeurs, des imprimantes, des distributeurs automatiques. Quand on a fait la somme des équipements qui pouvaient potentiellement être impactés avec les chercheurs, on a voulu noter millions dans Epsilon. Ils nous ont corrigés en nous disant non, mettez milliards, c'est beaucoup trop peu millions. Ce sont des milliards d'équipements qui sont disséminés partout dans notre monde moderne, qui sont anciens, puisqu'il s'agit d'équipements qui vont devenir obsolètes à un moment, et qui ne sont pas forcément inventoriés, pour lesquels on ne sait pas forcément qu'ils vont avoir ce bug qui est caché à l'intérieur, et qu'il faudrait corriger avant cette date de 2038, qui paraît loin quand on l'envisage, mais quand on se rend compte de l'ampleur du truc, forcément ça rapproche un petit peu cette date. Je peux préciser d'ailleurs la date, c'est le 19 janvier 2038 à 3h14min7s.
Mais qu'est-ce qui va se passer justement le 19 janvier 2038, 3h14min7s, c'est quoi le problème?
Eh bien ce qui va se passer, on ne sait pas. Le problème, on le connaît très bien et en fait il est très simple. C'est le plaisir aussi de ce sujet, c'est qu'on peut très bien comprendre le problème. Le problème c'est que la date a été codée dans tous les systèmes informatiques sous la forme d'un défilement de l'heure. Alors les informaticiens ont choisi une date arbitraire pour commencer le décompte. Ils ont choisi le 1er janvier 1970, juste après l'invention du système d'exploitation Unix, hein, en 69, c'est un peu un truc de geek. Et donc ils ont débuté leur décompte à partir de cette date-là et tous les dispositifs électroniques compte le temps en déroulant une seconde après l'autre jusqu'à aujourd'hui, depuis 1970. Pour faire ce codage, ils ont déterminé un nombre de chiffres qui permet de coder la date. Ils en ont pris 32 pour des raisons de place, exactement comme en 2000. Donc en fait, tout simplement, l'écoulement du temps pour nos objets électroniques, ce sont 32 bits, 32 0 et 1, qui se changent pour faire l'addition de toutes les secondes qui s'écoulent. On enlève un de ces bits puisque ce bit sert à dire si la date est antérieure ou postérieure à 1970. Et donc, il nous reste 31 bits pour coder l'écoulement des secondes à partir de 1970. Et bien si on écoule les secondes, on écoule les secondes, on écoule les secondes, etc. Et qu'on va jusqu'après avoir utilisé tous les bits de ces 31 bits, eh ben on arrive le 19 janvier 2038 à 3h14min7s. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Boum, tout s'inverse. Et on revient au 13 décembre 1901, 20h45min52s. Alors, vous pouvez me dire, on s'en fiche finalement. Qu'est-ce que ça change de revenir en 1900? Ben, ça change tout. Pour un dispositif logique, informatique, ça peut changer tout. Et le pire, on a interrogé les spécialistes, c'est qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Ça pourra être une erreur, un arrêt, ça pourrait... Qu'est-ce que va faire le dispositif en fonction du type de dispositif, la grue, qu'est-ce qu'elle va faire, le barrage, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que va faire le ventilateur, qu'est-ce que va faire le distributeur automatique, on ne sait pas. on peut pas le prévoir, c'est super compliqué de le prévoir. Donc la seule solution finalement, c'est d'intervenir pour régler le problème dès maintenant.
Le problème, finalement, en fait, ce que vous décrivez, c'est le problème du codage en 32 bits.
C'est le problème du codage en 32 bits. Alors, il faut savoir aussi que depuis, on ne code plus en 32 bits, majoritairement. Depuis, on a inventé un codage en 64 bits pour se prémunir jusque... Donc, 64 bits, ça nous amène très, très, très loin. Et on peut voir venir, je crois que c'est l'âge de l'univers. Donc, on peut voir venir. Le problème, c'est que, d'une part, il y a une multitude de composants en 32 bits qui sont encore disséminés et qui n'ont pas été remplacés, parce qu'ils sont pas forcément obsolètes du point de vue de leur fonctionnement. Et d'autre part, on continue même, en fait, d'en acheter. Parce que, pour certains objets qui sont assez peu élaborés, pour une vanne, par exemple, on se dit que 32 bits vont bien suffire, sans savoir penser que, en fait, ça codait le dispositif d'écoulement du temps.
Sébastien Boller, je vous vois réagir.
Ce que je trouve très amusant, c'est d'imaginer que des gens en 1970 qui créent un grand système d'écoulement du temps pour les siècles à venir se disent, allez, on en prend 32, et puis ils ont dû penser quand même, ils étaient des bons mathématiciens, que ça s'achèverait. Ils savaient probablement la date déjà. C'est pas grave, on verra bien.
C'est parce que ça n'est pas qu'une histoire c'est une histoire de compromis entre un mathématicien, un informaticien et un ingénieur. Et c'est une histoire de dimensionnement des systèmes en fonction du coût qu'on veut investir, etc. Et donc ces compromis-là, finalement, sont faits à chaque fois, des compromis techniques, sur la durabilité d'un équipement, sur sa résistance au temps. Et ce sont des équipements qui, pour la plupart, ont été mis au point dans les années 90-2000 et disséminés. C'est vraiment ces raisonnements-là qui... on en parlait même avec Gérard Berry, qui est professeur au Collège de France et spécialiste justement de ces technologies-là, et qui nous expliquait qu'il y avait quelque part, de manière invariable, cette absence d'aller-retour entre l'informaticien, le théoricien et puis l'ingénieur sur le terrain, et qui fait qu'il y a comme ça à la fois donc, des problèmes de conception, c'est-à-dire on ne se pose pas assez la question de savoir si en 2038 on aura encore besoin de cet équipement sur la grue quelque part en France, et il y a aussi un problème de transmission de la mémoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on découvre ce problème dans un monde qui est celui des informaticiens, tout le monde en est extrêmement conscient, il nous a suffi d'appeler quelques informaticiens pour les entendre se dire « Ah mais oui, non mais nous, entre nous, on sait très bien que ça va poser problème. Ouais. » Et de l'autre côté, quand on appelait les industriels, ils nous disaient « Ah bon, non, je sais pas, j'ai pas envie d'en parler, il y a pas de problème. » Et donc il y a ce problème-là, cette quelque part fracture, hein, le terme utilisé, c'était schisme par Richard Bréry, entre ces deux mondes, et qui fait qu'on en arrive aujourd'hui à ce problème-là.
Et en effet, Mathilde Fontaine, vous ajoutez même, vous parlez même de déni à propos de ce
sujet. Ça nous a été dit, d'une part, c'est notre sensation, puisque nous, on a pris pour ce sujet-là, on voulait vraiment quand même avoir les industriels, donc on en a contacté un paquet, et tous ont botté en touche. Aucun n'a voulu nous répondre, alors ils ont minimisé. Alors, il y en a qui ont quand même fait leur mieux. Hein. On les a cités dans l'article, notamment Apple dès 2015, Linux en 2020, qui ont vraiment fait cette implémentation technique, parce que les solutions existent. Hein. On peut soit remplacer le processeur qui pose problème en 32 bits par un en 64, on peut reprogrammer, mais ça nécessite un travail technique, et ça nécessite bien souvent d'aller chercher la pièce là où elle se trouve. C'est tout le problème, il faut faire l'inventaire, il faut retrouver les pièces, il faut intervenir dessus. Mais il y en a quand même qui ont fait ces manipulations et qui l'ont dit. Mais sinon, tous les autres industriels que nous avons interrogés, effectivement, ont répondu qu'ils n'avaient pas envie d'en parler, que c'était pas un problème, etc. Et de l'autre côté, on avait le son de cloche de tous les informaticiens, qui commencent à se réunir en association pour essayer de motiver parce qu'ils s'inquiètent du temps de réaction qu'on va avoir après pour intervenir.
Et 2038,
ça commence à devenir proche quand on décrit le phénomène. Et donc voilà.
Pedro Lima, vous avez une question.
Par contre, j'ai lu dans un passionnant article que passer de processeurs de 32 à 64 bits nous ferait là pour le coup gagner 292 milliards d'années. C'est-à-dire que là, pour le coup, après, on serait tranquille, je pense, quand même, pour un bon moment. Quoi.
Voilà. Et il y a une petite manip astuce, c'est qu'actuellement, les 32 bits, donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y en a un qui est utilisé pour coder l'heure avant ou après 1970. L'idée des informaticiens, c'est aussi, pour intervenir à minima, on pourrait utiliser ce bit supplémentaire et le remettre dans le compte des secondes, ce qui nous amène jusqu'à 2106.
Là, ça serait que de la programmation.
Voilà, ça permet d'intervenir de manière plus légère. Donc, il y a plusieurs options qui sont déjà quelque part identifié. Et le plus dur, finalement, ça va être de procéder à ce grand inventaire qui va forcément être coûteux pour les industriels, puisqu'ils vont devoir se demander, en gros, combien j'ai d'IRM, moi, le fabricant d'IRM, disséminés partout dans le monde, qui contiennent chacun un processeur à 32 bits qu'il faudra changer.
Et on apprend en effet dans le dossier Epsilon qu'un peu partout dans le monde, quand même des codeurs, des chercheurs commencent à se fédérer pour alerter. Fin 2025, lors d'une réunion de l'Union internationale des télécommunications à Genève, les membres d'un groupe de travail ont approuvé un document qui exige une coordination mondiale sur ce sujet. À suivre donc, grand merci à vous quatre de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Dans quelques secondes, là tout de suite maintenant, on retrouve la chronique d'Alexandre Morales qui nous parle de primates et de leur posture pour descendre des arbres. C'est la chronique avec science. Merci.
Comment les animaux descendent-ils des arbres? Plutôt les pieds devant ou la tête la première? Pour notre espèce, la réponse est plutôt évidente. Les pieds d'abord, pour éviter de se casser la figure, mais la question se pose pour nos cousins primates ou pour nos ancêtres lointains. Il y a quelques dizaines de millions d'années seulement, vos ancêtres et les miens étaient arboricoles. Comme beaucoup d'autres animaux, ils passaient le plus clair de leur temps dans les arbres. Alors, l'adaptation au milieu arboricole suppose évidemment de pouvoir nicher, se nourrir, se reproduire et bien entendu se mouvoir dans l'espace tridimensionnel de la canopée. Et parmi ces déplacements, il en est un qui est très intéressant, c'est le déplacement vertical. Les auteurs pensent que cette capacité à monter et descendre des arbres a joué un rôle très important dans l'évolution du groupe des primates. Elle aurait favorisé en particulier l'élongation des doigts, ce qui permet une meilleure préhension. Et c'est un caractère qu'on retrouve chez la plupart des primates. Séverine Toussaint est chercheuse CNRS au Centre de recherche en paléontologie de Paris, au Muséum national d'histoire naturelle.
Jusqu'à présent, les études qui avaient été réalisées ont quantifié deux types de descentes principales. Une descente qu'on appelle tête en bas, où en fait tout simplement l'animal vraiment se tourne et descend d'un tronc vraiment positionné la tête en bas. Mais il y a également des descentes plutôt que vers le bas, comme son nom l'indique, vraiment l'animal redescend avec les fesses positionnées vers le bas. Et ça, on pensait jusqu'à présent que c'était plutôt déterminé par la taille corporelle. Donc plus l'animal est de grande taille et plus il va avoir tendance à descendre la queue vers le bas. En fait, ça a été surtout étudié en montée. C'est vraiment les ascensions, le fait de pouvoir grimper, se hisser en fait avec les membres antérieurs qui a été beaucoup étudié. Mais le fait de descendre n'a jamais été trop considéré en soi comme une étude à part entière et une étude vraiment comparative avec plein d'espèces, disons.
Pour combler cette lacune, Séverine Toussaint et ses collègues ont publié récemment une étude dans la revue eLife qui s'intéresse à la posture lors de la descente. Alors la première étape est assez évidente, c'est l'observation. Les auteurs se sont rendus dans des parcs zoologiques pour filmer sous toutes les coutures des animaux arboricoles montant et descendant de supports verticaux. 57 individus ont été inclus dans cette étude, issus de 21 espèces de primates, de rongeurs, de marsupiaux, de divers carnivores et de toupailles. Ce sont de petits animaux des forêts tropicales asiatiques. Ces espèces ont été choisies parce qu'elles pourraient représenter plutôt fidèlement les différents stades potentiels de l'évolution de l'arboricolie chez les primates anciens. Alors avec pas moins de 1400 vidéos de descente, les auteurs ont pu reproduire fidèlement et en 3D les mouvements des animaux. Et ce qui en ressort, c'est que, indépendamment du poids, ce sont les primates qui pratiquent le plus et de loin la descente qu'en premier. Pour la seconde partie de cette publication, les auteurs ont recherché des corrélations entre le mode de déplacement et la morphologie.
Du coup, on a vu qu'il y a bien une corrélation entre le type de descente réalisée et les paramètres morphologiques généraux, qui sont les tailles relatives des membres, la taille relative de la queue et la masse relative de la tête. Donc en gros, plus un animal a les membres longs, donc des longues jambes et des longs bras, une longue queue et une tête lourde, une grosse tête, plus ils vont avoir tendance à descendre les fesses en premier. C'est justement là que c'est intéressant. Les primates sont des animaux très spéciaux parce qu'ils ont un cerveau beaucoup plus gros que les autres et des membres postérieurs très allongés. Maintenant, est-ce que du coup on peut en inférer les comportements possibles de ces fossiles, connaissant du coup la morphologie et les comportements des espèces actuelles? On a choisi donc 13 eucharchontes onglires anciens, donc des primates très anciens et proches parents très anciens, justement pour voir un petit peu est-ce que les tout premiers primates descendaient plutôt la tête la première ou plutôt déjà les fesses en premier. L'idée, c'était un peu d'estimer quand les primates auraient pu commencer à exprimer des comportements redresser.
Les auteurs montrent ainsi qu'entre 65 et 50 millions d'années, dès le moment de l'apparition du groupe des primates, ces derniers avaient déjà commencé à adopter une posture redressée. Et ce n'est pas anodin puisqu'on peut raisonnablement penser qu'ainsi, les mains ont pu servir à d'autres tâches que la stricte locomotion. On pense immédiatement à la manipulation d'objets et de nourriture, par exemple. Une manipulation dont on sait qu'elle a joué un grand rôle dans le développement des capacités cognitives des primates.
Merci Alexandre pour votre chronique, merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. À Vétienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Loïc Dutoit, Louise Ormond, CJ. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Nicolas Leroulet. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.